Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 15e. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Yves Bastier.
Oui, bonjour.
Maire de Salelles-d'Aude, mais également président depuis d'ailleurs assez longtemps de la Fédération des chasseurs de l'Aude, un morceau associatif très très important, comme peut-être les gens ne le supposent pas, on va le voir tout à l'heure. Le sommaire prévoit, Michel, que tu nous parles du président à Souillac, non pas en simple visite, mais en grand débat national. Après quoi, dans une deuxième partie, nous reviendrons sur Narbonne et la Narbonnaise avec les Gilets jaunes en direct live sur le terrain. Et puis nous terminerons par un sujet que tu intitules « Jeu de dames à Narbonne ». Alors on verra s'il s'agit de dames ou d'échecs. Chacun décidera. Le président, donc, est venu honorer de sa présence le département du Lot.
C'est ça.
En l'occurrence, la ville de Souillac.
C'est exact. Donc, le grand débat a été, comme nos auditeurs le savent, officiellement lancé par deux rencontres, dont une rencontre à Souillac. Et les discussions ont été nourries. Et entre parenthèses, à cette occasion, la performance d'Emmanuel Macron, 6h, 5h30, faite sans non-stop, a été saluée par tous les commentateurs. Qui montre bon que si sa politique ne plaît pas à tout le monde, ce garçon a forcément, le président a forcément, à l'évidence, un certain talent.
C'était le marathon de Souillac, finalement.
Oui, à un point tel d'ailleurs qu'il a même traité d'un dossier particulièrement important dans les Pyrénées, à savoir l'ours et ses conséquences, pourquoi l'ours, etc. Donc, passons sur les dames, mais quand même, il y avait du monde, ça s'est relativement bien passé, mais je voulais surtout mettre en évidence ce que reflète ce type de réunion et le contexte dans lequel ces réunions effectivement se déroulent. Nul ne s'en ignorait que s'il y a un grand débat aujourd'hui, c'est la conséquence directe du mouvement des Gilets jaunes. Premier point. Un mouvement des Gilets jaunes, c'est une observation personnelle, mais qui n'engage que moi, mais quand même, qui, au-delà des simples revendications ou des seules revendications de type « il y a trop d'impôts, en fait, trop de charges, pas assez de pouvoir d'achat », exprime aussi, c'est mon point de vue, un certain malaise en fait de l'ensemble, en tout cas de pas mal d'électeurs, quant à leur rapport effectivement à la politique et notamment quant à la manière dont les politiques expriment leur point de vue, leurs soucis, leurs souhaits, leurs revendications. Il y a comme une espèce de coupure manifeste entre une partie de l'électorat et la représentation politique à travers ces différents niveaux de représentation.
Coupure, oui, voire éloignement, distance, c'est le reproche qu'on entend
exactement.
Souvent.
Alors la première remarque que je ferai, premier enseignement de ces rencontres, est que à l'évidence, la réforme territoriale, la réforme plutôt qui sortira forcément de ces débats, d'une manière ou d'une autre, à travers un référendum ou d'autres modes effectivement de propositions qui seront présentées aux Français, c'est que dans une démocratie, on a forcément besoin de corps intermédiaires, de corps médias. On ne peut pas imaginer qu'il suffit d'élaborer un plan techniquement parfait dans un ministère pour qu'il soit appliqué, compris et appliqué sur le terrain de manière à satisfaire l'ensemble, ou le plus grand nombre en tout cas, des gens qui sont concernés par ces réformes.
Oui,
à l'évidence.
Ce qui a été relativement l'erreur du président Macron.
Exactement.
Il faut le reconnaître.
Le reconnaître. Et ce qui démontre aussi que s'il avait réussi, le président Macron, et ses soutiens à mobiliser pour un seul vote, c'est-à-dire celui qui a permis d'accéder à la présidence de la République, et derrière de mettre en place une assemblée majoritaire, le soutenant, ce qu'il a réussi à mobiliser une majorité de Français sur son nom, sur son programme, force est de constater qu'il n'a pas réussi à mobiliser les mêmes Français depuis qu'il a été élu pour mettre en branle justement et faire en sorte qu'elles soient bien comprises et bien assimilées les réformes proposées.
C'est-à-dire qu'on a eu un phénomène relativement rapide, éphémère, mais la durabilité n'y est pas.
Alors, une remarque complémentaire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le président Macron, comme le mouvement En Marche, avait la volonté délibérée de supprimer tous les corps intermédiaires. Je crois plutôt que c'est la conséquence d'une situation qui nous a amené effectivement dans un contexte où les Français, de manière générale, n'ont pas compris et n'ont plus accepté les propositions et les pratiques des partis dits traditionnels qu'ils ont considérés, enfin qu'ils ont vécu, enfin qu'ils ont expérimenté pendant plus de 30, 40 ans.
Oui, il y a eu un changement de méthode,
donc,
ça. Oui.
Donc, on est dans une situation en pleine recomposition politique. Et la deuxième remarque consécutive à ces petites observations que je viens de faire là, et c'est que, il faut effectivement, d'une manière ou d'une autre, pour ce pouvoir, mais comme pour d'autres, en fait, hein, redynamiser, en fait, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, ce qui passe d'abord et avant tout, entre parenthèses, du côté d'En Marche, par la constitution d'un vrai parti, entre guillemets, ou d'un vrai mouvement, entre guillemets, qui s'est relayé à tous les niveaux de la vie politique nationale, notamment au plan local, car il faut bien le constater aujourd'hui, ce mouvement, en fait, et dont le président, en fait, sa majorité, ont peu de relais, en fait, locaux,
sur le terrain oui.
Qui expriment, qui défendent, qui promeuvent, en fait, la politique, en fait, et fassent comprendre la logique, effectivement, des politiques enclenchées par leur majorité. De ce point de vue, d'ailleurs, sur un Narbonnaise, le phénomène est frappant, quoi, hein, malgré tous les efforts du député Alain Perea, encore que, on voit peu, effectivement, on voit pas, en fait, hein, ce qui, concrètement, hein, pourrait s'exprimer de manière positive, ou en tout cas de manière dynamique, valorisant là où les politiques mises en branle depuis l'arrivée au pouvoir d'En Marche.
On ne voit pas un appareil s'installer sur le terrain.
Exactement. Et autre remarque qui, à l'évidence, me semble devoir être tirée de ces réunions, c'est le constat que notre France, enfin notre pays, est trop centralisé. Trop centralisé, et que cette trop grande centralisation autour d'un pouvoir, en fait, exécutif, essentiellement parisien, en fait, l'Assemblée nationale, hein, fait que forcément, hein, le dit pouvoir exécutif, avec le système qui est le nôtre, se retrouve pratiquement en première ligne de tous les conflits qui peuvent apparaître sur pratiquement tous les sujets, les ours des Pyrénées compris, hein, ce qui est complètement aberrant. Et la conséquence de cela, me semble-t-il, la leçon qui doit être tirée de ces débats qui ont été enclenchés maintenant depuis quelque temps, c'est la mise sur la table, hein, à terme, d'une profonde réforme de la décentralisation qui octroie encore plus de pouvoir, en fait, et de compétences aux dites collectivités. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, de ce qu'il faudrait transférer aux collectivités, que ce soit régionales, départementales ou locales, mais à l'évidence, si on veut limiter, hein, ou si on veut limiter que, comment dirais-je, la concentration, en fait, de tous les mécontentements et donc de tous les conflits sur le seul pouvoir exécutif du président de la République, il faut nécessairement transférer effectivement un certain nombre de compétences aujourd'hui, en fait, exercées par l'État, en fait, hein, sur les collectivités locales, et donc promouvoir cette, qui est d'ailleurs un élément du programme de Macron, un pouvoir d'expérimentation auprès des régions et des départements, entre autres, qui leur permettent effectivement de jouer, en fait, un rôle, je dirais, d'amortisseur social et politique, oui, et qui évite la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Mais le constat n'est pas nouveau. L'hypercentralisation française, elle est connue, on en connaît le mal, on l'a dénoncé, moult politiciens l'ont dénoncé auparavant, et cela, jusqu'ici, ne change guère.
Eh bien, je crois, Jean-Claude, que nous sommes arrivés au bout, effectivement, de cette logique. En fait, au bout, en fait, de l'expression de tous les problèmes, de tous les dysfonctionnements que ce système, en fait, génère, et que, sauf à ne pas résoudre, en fait, ou en tout cas aller dans ce sens-là, si on n'y va pas dans ce sens-là, je crains que l'on continue à se retrouver dans des situations et dans ce pays où, à chaque réforme relativement importante, enfin, qui bouscule effectivement un certain nombre de rente sociale, en fait, ou politique, on est ce genre de manifestations qui durent, en fait, qui coûtent cher et qui ne sont pas sans dégâts, en fait, à la fois financiers, en fait, humains et sociaux.
Oui, donc, et psychologiques.
Et psychologiques. C'est d'ailleurs l'indice qui m'amène à penser qu'on est au bord d'une réforme de la décentralisation qui ira dans ce sens, c'est l'initiative prise par les trois présidents des trois grandes associations qui gèrent les différentes collectivités locales, M. Barouin pour les communes, M. Busseau pour les départements et M. Morin pour les régions, tous trois d'ailleurs membres des Républicains, qui ont créé une nouvelle association, tant qu'à y être, territoire d'avenir, dont l'objectif, justement, est de mettre sur la table, en fait, avant que l'exécutif, le pouvoir exécutif ne mette ses cartes lui aussi sur la table, de mettre sur la table ce que, de leur point de vue, il serait souhaitable pour améliorer et renforcer la décentralisation. Ce qui veut dire que ce soit à droite, que ce soit à gauche ou que ce soit à marche, l'ensemble des partis, me semble qu'ils sont arrivés aujourd'hui au constat qu'on ne pouvait plus continuer avec ce modèle hyper centralisé, avec une gouvernance qui, effectivement, pose toute une série de questions et produit ce genre de phénomène social et politique tel que nous l'avons vécu avec les Gilets jaunes aujourd'hui.
Voilà, et l'on marque une première pause en remarquant que finalement tous ces républicains se proposent de faire aujourd'hui des réformes qu'ils n'ont pas faites lorsqu'ils étaient au pouvoir. On marque une première pause.